Docteur Ted Hildebrandt, OT Histoire.
Histoire, lit. Et théologie, conférence 26.
Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt.
C'est le Dr. Ted Hildebrandt qui enseigne dans son Histoire de l'Ancien Testament. Cours de littérature et de théologie, la conférence finale numéro 26, de Salomon à Roboam, Jéroboam, jusqu'à Achabé et ensuite certaines prophéties messianiques. Revue de l'apostasie de Salomon. Je veux passer en revue certaines choses assez rapidement ici et nous sommes donc simplement. Ça va être une sorte de délit de fuite au fur et à mesure que nous parcourons ce matériel. Alors commençons ça. En haut. La dernière fois, nous parlions de Salomon et nous disions que Salomon est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Ensuite, nous avons dit qu'à la fin de sa vie, il lui gâche la vie. Il finit avec toutes ses femmes, il finit par adorer les autres Dieu, et il a ses problèmes. C'est donc plutôt intéressant que ce soit le plus intelligent. L'homme qui a jamais vécu s'avère être un homme très insensé. La chose même qu'il prévenu ses enfants est la chose qu'il a lui-même bâclée. Alors que est ce qui finit? Ce qui se passe, il me semble, et je me demande si vous avez remarqué cela, avez-vous déjà remarqué? Les gens qui sont vraiment intelligents finissent par être vraiment stupides en même temps. Alors toi, obtenez cette connexion à l'arrière de la sagesse, que la sagesse et la folie croisement parfois. Avec Salomon, vous obtenez ce retournement. Les choses mêmes qu'il a mis en garde le jeune homme contre la femme adultère et qu'il est bon de poursuivre d'autres dieux. C'est précisément ce à quoi il participe en lui-même. Alors Salomon tourne le dos à Dieu. Il a de gros problèmes là-bas. Cela nous amène à Hébreux 6 et à une foule de choses. Quant à savoir si vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Mais nous garderons ça pour le Nouveau Testament. Quoi qu'il en soit, nous avons examiné la sagesse et la folie, ainsi que les liens entre les deux dans le récit. Division de la monarchie. Ce qui se passe, c'est que, parce que Salomon poursuit d'autres dieux, Dieu entre. Chapitre 11 et permettez-moi de lire ceci, chapitre 11, verset 11, le Seigneur dit à Salomon, puisque telle est ton attitude et que tu n'as pas respecté mon alliance et mon machine translated by Google. 2. Décret, remarquez, vous n'avez pas gardé mon alliance, l'alliance était une grande chose pour Dieu. Vous n'avez pas gardé mon alliance, mes décrets que je vous ai prescrits. Je vous arrachera très certainement le royaume et le donnera à l'un de vos subordonnés. Néanmoins, pour le bien de David, ton père, je ne le ferai pas pendant votre vie. Alors Salomon est épargné, pourquoi? Parce que David était son père. Il dit en fait que parce que David était ton père, je ne te ferai pas ça, parce que tu es le fils de David. Dieu épargne Salomon au nom de David, ce qui est vraiment intéressant. Concept là-bas. Ce qui se passe maintenant, c'est que le royaume va se diviser au nord et au sud. J'appelle ces deux gars, les frères Boam. C'est alors que le royaume se divise. Le sud est va être Roboam et Roboam est le fils de Salomon. Roboam sera dans la lignée davidique. Roboam sera le roi de Juda. Juda va être dans le sud. Il y a donc une tribu dans le sud qui reste dans la lignée davidique. Juda au sud. Les 10 tribus du nord, elles se laissent emporter par ce type. Jéroboam. Donc Jéroboam qui est en réalité un antagoniste de Roboam et de Jéroboam s'installe au nord. Le nord sera appelé Israël. Le sud s'appellera Juda. Le royaume va donc se diviser à ce stade et c'est une grande chose pour Israël. Sous Saül, David et Salomon, le royaume avait été uni. Maintenant 10. Les tribus dirigées par Éphraïm vont être emportées vers le nord. Les 10 tribus du au nord, ils iront à Jéroboam, qui n'est pas davidique. Puis le sud, une tribu. Juda va aller vers Roboam. Nous y reviendrons donc. Ce que nous avons ici, c'est le royaume divisé en ce qu'il appelle une monarchie divisée, par opposition à la monarchie unie. La monarchie unie est Saül, David et Salomon. La monarchie divisée est un groupe des rois du nord, Israël, et un groupe de rois du sud, Juda. Quelques dates à connaître, 1000 avant J.C., 722 avant J.C. et 586 avant J.C. Maintenant, il va y avoir trois ou quatre dates que je veux que vous sachiez. D'abord, la date que je veux que tu saches, c'est quoi? David, c'est quoi? David est un 1000 BCA. La deuxième date que je souhaite introduire aujourd'hui est la date à laquelle le royaume s'est divisé en 931 avant J.C. Machine translated by Google. 3. Je ne veux pas que vous connaissiez la date de 931. David est en 1000 avant J.C., vous pensez que Salomon est juste après, donc on s'en rapproche un peu. Cette date 722 avant J.C. est une date importante. C'est alors que le royaume du nord d'Israël, les 10 tribus du nord, furent emmenés en Assyrie, à Ninive. Ninive est la capitale de l'Assyrie. Les Assyriens étaient extrêmement cruels. Personne. Dès que je dis Assyrie, quel est le prophète qui me vient à l'esprit? Jonas. Donc, Jonas part en Assyrie. Les 10 tribus sont emmenées en Assyrie. Il arrache tout. Des gens riches et riches. Il laisse les pauvres dans le pays et il disperse les juifs. Les 10 tribus sont dispersées dans toute l'Assyrie et la région. Ces 10 tribus ont elles déjà été rassemblées. Les 10 tribus sont elles vraiment dispersées autour du monde? Depuis 722 avant J.C., sont-ils dispersés à travers le monde jusqu'à nos jours? Vous dites non, Hildebrandt, ils ne sont pas vraiment dispersés, ils sont à New York. La plupart d'entre eux. Mais les juifs sont dispersés partout dans le monde, Pologne, Allemagne, etc. Et maintenant, ils sont retournés en Israël, mais vous savez, comme nous l'avons dit, il y en a d'autres. Il y a des juifs à New York et en Israël. C'est à ce moment-là que les 10 du Nord. Les tribus ont été dispersées par l'Assyrie et elles ont été dispersées depuis 722. Avant J.C. Environ 130 ans après Juda, Juda dure encore environ 130 ans. Juda est exilé en 586 avant J.C. et c'est une date vraiment importante. 586, c'est quand le temple de Salomon est détruit. C'est donc une date vraiment importante, c'est à ce moment-là que Babylone entre et détruit le temple de Salomon. Le temple est donc détruit et les juifs sont emmenés à Babylone par Nabuchodonosor. Et au fait, qui étaient des juifs qui ont été emmenés à Babylone, que vous connaissez? Est-ce que quelqu'un? Tu te souviens de Daniel, Shedrach, Meshach, Abednego, Segala et Ézéchiel? Fait. Quelqu'un se souvient du prophète qui a parlé juste avant l'arrivée des Babyloniens et détruit le temple? Est-ce que quelqu'un sait quel prophète pleurait? Prophète, il a beaucoup pleuré. Jérémie, c'est vrai. Jérémie a prophétisé juste avant qu'il allait à Babylone. Jérémie leur dit, vous partez à Babylone. Tu es. Ils vont aller à Babylone, se repentir, et ils ne se repentant pas. Au lieu de cela, ils. Machine translated by Google. 4. Tabasser Jérémie. Ils sont emmenés à Babylone. Au fait, est-ce que Dieu préservait Jérémie en vie? Jérémie ne va pas à Babylone, il est préservé parce que il a prononcé la parole de Dieu, même s'il a été pas mal battu. C'est donc 586 avant J.C., c'est une grande date, le temple est détruit et les juifs sont exilés à Babylone. Au fait, combien d'années sont-ils allés à Babylone? Est-ce que quelqu'un? Tu te souviens de ça? 70 ans. Ils durent 70 ans. Pourquoi Dieu a-t-il dit 70 ans. Il dit, tu me dois quelque chose parce que tu n'as pas observé le sabbat. Année. Vous vous souvenez que tous les 7 ans, ils sont censés laisser la terre se reposer. Le. Année sabbatique et les Juifs ne l'avaient pas fait depuis 490 ans et Dieu a donc gardé une trace. De ça. Il dit que vous êtes hors de ma terre va retrouver son repos. Vous y êtes. Babylone pendant 70 ans. Et maintenant, s'en était-il tiré pendant 490 ans? Oui. Dieu dit, d'accord, maintenant c'est dû, tu sors d'ici, tu vas à Babylone pour 70 ans, et ils vont en 586 avant J.C., date à laquelle cela a réellement eu lieu. Se produit de manière considérable. La division du royaume avec Roboam, fils de Salomon. Maintenant, le royaume est divisé et nous voulons juste parler de la scission et de la façon dont ça arrive. Roboam est le fils de Salomon. Il va faire du mal. Des erreurs ici. L'une des erreurs qu'il va commettre, c'est qu'il va écouter les jeunes contre les vieux. Un jeune, lorsque vous demandez conseil, doit-il une personne écouter-elle une personne âgée ou doit-elle écouter ses pairs? Un jeune devrait écouter les personnes âgées pour acquérir la sagesse. Je suis un vieil homme maintenant. Question, devrais-je écouter de manière intergénérationnelle mon fils de 23 ans? Oui, je devrais parce que ça donne vous ce genre de contexte intergénérationnel ici. Alors Roboam dit, d'accord, alors mon père est mort maintenant, je suis le roi. Ce qu'il dit, c'est qu'il va voir les vieillards et il dit, et, les aînés, que recommandez-vous? Il consulta les anciens et ils dirent, si aujourd'hui tu es le serviteur de ces gens, que tu les sers et que tu leur donnes. Si vous leur répondez favorablement, ils seront toujours vos serviteurs. Autrement dit, si toi, en tant que roi, sers ton peuple, que te fera ton peuple? Elles vont te servir. Donc si le roi sert le peuple, alors le peuple servira le roi. Et Machine Translated by Google. 5. Ça parle de leadership. Si un nouveau roi sert son peuple, le peuple à son tour le servir. Ça marche bien. C'est ce que Jésus a fait. Il rejette cela et s'adresse plutôt aux jeunes hommes avec lesquels il a grandi. Avec et voici ce qu'ils disent, et, Roboam, tu es le roi, tu es le grand homme. Maintenant, dis-leur que mon petit doigt est plus épais que la taille de mon père. Mon père, je t'ai imposé un joug lourd. Je vais le rendre encore plus lourd. Mon père t'a flagellé avec des fouets. Je te fouetterai avec des scorpions. En d'autres termes, mon père a réussi. C'est dur pour toi, tu n'as encore rien vu. Je suis sur le trône maintenant et mon petit. Le doigt est plus dur que tout le pouvoir et l'être de mon père. C'est ce que les jeunes disent les hommes. Montre-leur qui est le patron. Avez-vous déjà vu le jeune leader entrer? Et il doit prendre le relais et montrer à tout le monde qu'il est l'homme qu'il faut. Et ce un perdant. C'est un perdant. Quand il faut prouver quelque chose comme ça, c'est un perdant. Le personne qui vient et sert les gens, ce leader est-il un gagnant? Je viens d'en parler avec mon fils au sujet de son expérience dans le marine. Des marines arrivent et je vais leur montrer comment. Je suis dur. Mon fils était chef d'équipe et vous savez ce qu'il faisait. Ces gars. Parcouru 16 000. Plutôt que de leur faire un sermon en leur disant qu'il rien, tu sais ce qu'il a fait. Il est sorti acheter de la pizza pour ses gars. Question, ces gars seraient-ils morts pour lui? Je ne parle pas au sens figuré, je suis parlé littéralement. La réponse est oui. Le problème c'est qu'il savait qu'il irait. D'abord, s'il franchissait une mauvaise porte, il savait qu'il passerait en premier parce que il ne les laisserait pas partir en premier parce que c'est le genre de leader qu'il est. Il irait D'abord, et c'est pourquoi j'étais heureux qu'il ait été relevé de ses fonctions, parce que je savais qu'il ferait ça. Mais c'est ce que fait un leader sert. Ce type, Roboam, accepte les conseils des jeunes. Il sort. Je vais te fouetter. Mon père t'a fouetté avec des fouets. Je vais te fouetter. Avec des scorpions. Tout le monde a dit quoi? Nous sommes déjà suffisamment imposés. Avez-vous déjà vu que, suffisamment taxé? Quelqu'un a déjà vu ça? Le thé, oui. Nous l'avons eu dans notre pays. Déjà assez imposé. Machine translated by Google. 6. Les gens disaient que nous étions trop taxés sur Roboam. Nous n'allons pas vous payer les impôts comme ils les ont payés. Alors ils dirent, 10 tribus, nous allons vers le nord. N'était pas. Je vais revenir ici. Alors, ils ont divisé le royaume à cause de cela. Maintenant, Roboam, juste pour montrer à quel point ce type était stupide, il a utilisé Adoniram qui était un personnage mineur. Adoniram était le collecteur d'impôts de Salomon. Que dit Roboam? Faire. Il envoie Adoniram collecter les impôts. Que est-ce que les gens ont fait à ce type? Lorsqu'il sort pour collecter les impôts, les gens lapident Adoniram à mort. En fait, ils le tuent alors qu'il essaie de collecter des impôts pour Roboam. Ils ont dit. Désolé, ça ne marche pas ici, et ils ont en fait lapidé ce type à mort. Était-ce un geste vraiment stupide de sa part? Est-ce que ce type avait déjà eu du mauvais sang parce qu'il un collecteur d'impôts pour Salomon? C'est de ça qu'il se plaignait trop. Les impôts. Adoniram fut donc lapidé à mort. Cela montre simplement Roboam et son stupidité. Aujourd'hui, le royaume du Nord se sépare. Le royaume du Nord s'appellera Israël. Les noms deviennent drôles ici. Ainsi, le royaume du Nord s'appelle Israël et Juda sera au Sud. Tous les rois du Nord sont mauvais. Chacun d'entre eux sont mauvais en commençant par Jéroboam et en descendant. Ils sont tous mauvais. C'est donc assez simple pour le royaume du Nord, ce sont tous des méchants. Au Sud, le royaume du Sud est appelé Juda et c'est à travers le royaume méridional de Juda que David. Les descendants régneront. Le problème c'est qu'ils n'ont qu'une seule tribu. Siméon. En fait, j'avais immigré là-bas, mais je ne veux pas aborder cela. Mais peu importe. Juda est le lieu où le fils de David régnera. La plupart des rois du sud étaient méchants. Certains d'entre eux étaient bons. Ézéchia était un très bon roi. Josaïe était un autre vrai bon roi. Vous avez donc Ézéchia, Josia, Asa, certains de ces rois du sud qui étaient bons. Tout n'était pas mauvais, mais environ 4 étaient bons. Roi du royaume du Nord, un aperçu rapide. Maintenant, les rois du Nord, c'est parti. Je ne veux pas que tu saches ça ou notez ceci. Je vais juste flotter à travers le royaume du Nord. Quand je suivis ce cours il y a de nombreuses années, mon professeur nous a fait mémoriser tous les Machine Translated by Google. 7. Les rois du Nord et leurs dates et les rois du Midi et leurs dates. Maintenant j'ai juré que si jamais j'enseignais ce cours, je ne ferais jamais ça à personne. Jéroboam sera notre premier roi du Nord, il sera roi quand le royaume se divise en 931. C'est lui qui prend le relais dans le Nord. Il a un fils Nadab, mais que arrive-t-il à sa ligne? Sa ligne est coupée. Baasha tue Ela, le fils de Nadab. Ela est tué. Zimri n'a pas d'enfant, il règne pendant environ 3 semaines ou 3 mois. Ou alors, il est tué immédiatement. Donc ces gars-là se font tuer. Et ce que tu vois, que chacune de leurs lignes se termine. Au fait, dans le sud, allons-nous avoir la lignée de David, père-fils, père-fils, père-fils. La lignée de David va continuer pour toujours. Mais ici tu vois. Ces gars-là sont coupés, coupés et coupés. Aucun de leurs descendants ne dure. Maintenant, en voici un gros, ce type en a quatre Amri d'affilée. Tu connais Amri. Parce que vous connaissez son fils Achabé. Achabé était célèbre. Il était marié à Jézabel. Donc, c'est le mari de Jézabel. Ce père Amri est aussi très important en dehors de la Bible. Plus que dans la Bible. Mais c'est Achabé qui fut le pire des pires rois. Achabé est le pire du nord et puis il a quelques fils et puis sa lignée est également coupée. Ensuite, vous avez Jéhu. Jéhu est important pour une chose. Je suis désolé pour... En le simplifiant à ce point, mais Jéhu supprime la réplique d'Achabé. Jéhu est celui qui achève tous les enfants d'Achabé. Jéhu met donc fin à cette mauvaise ligne au nord. Puis Jéroboam II, ce type Jéroboam met fin à la dynastie de Jéhu. Il n'a aucun lien de parenté avec Jéroboam. Mais Jéroboam II était le plus riche des rois du nord. Il était le plus puissant. Ce type était très puissant et riche à son époque. Ces autres gars ne sont que des nuls. Je suis désolé mais pour être honnête avec toi, c'est une bande de nuls et que leur arrive t-il, tués. Ils sont chacun effacés après une courte période de temps. Finalement, à cause de leur idolâtrie dans le nord, Dieu envoie l'Assyrie depuis Ninive en 722 avant J.C., les 10 tribus du nord sont déportées en Assyrie et ils prennent tous les riches. Ils prennent tous les gens intelligents et Machine Translated by Google. 8. Des gens fondamentalement normaux et plus. Ils les emmènent à Ninive et ensuite ils les amènent. Des gens de l'intelligentsia d'autres régions et ils échangent des populations entières. Pourquoi voudraient-ils échanger des populations? Parce que quand tu es dans un pays étranger, tu ne vas pas créer une révolte parce que tu ne connais pas les gens, tu es dans un pays étranger. Alors ils ont fait ce truc où ils échangeaient les populations pour. Il n'y aurait pas de révolte contre eux. Les Assyriens étaient vraiment cruels. Sur une photo, ils ont une pyramide de la tête des gens, rien que leur tête. Le fait est que si vous leur désobéissez, que se passe-t-il? Votre tête serait ajoutée à la pile. Et ce, un argument assez convaincant. Et ce que ça fonctionnerait dans un cours de philosophie. Oui, ce serait le cas. Et ce plutôt convaincant. Tas de têtes, vos têtes seront là. C'est l'un des meilleurs arguments de tous les temps. Oui. Monsieur, dites-vous. L'Assyrie est donc cruelle. Jéroboam Ier est le début du royaume du Nord. Maintenant Jéroboam, je veux juste parler de ce type, c'est le roi des Nord d'Israël. Ce qu'il fait, c'est que Jéroboam a un problème. Il a les 10 tribus. Au nord, Juda au sud. Mais Juda a pour capitale quoi? Jérusalem. Où les gens sont-ils censés aller 3 fois par an et apporter toutes leurs dîmes et des offrandes? Ils sont censés descendre à Jérusalem. Cela signifie alors que tout cet argent du nord va aller où? Ça va aller vers le sud et donc Jéroboam dit, ces gens vont apporter leurs sacrifices là-bas, tout cela. La richesse descend là-bas. Ils vont s'y rendre 3 fois par an. Ces gens vont se révolter contre moi parce qu'ils doivent continuer à Jérusalem. Alors il dit, vous savez que nous ne devrions pas faire ça. Maintenant, laissez-moi juste faire la narration ici. Il s'agit de 1 roi 12.27, 6 et les gens montent pour offrir des sacrifices au temple du Seigneur à Jérusalem, ils rendaient-leur encore allégeance à leur Seigneur, Roboam, roi de Juda. Ensuite, ils le feront. Tue-moi et retourne auprès du roi Roboam. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire ses veaux d'or et les établit à Dan et à Bethel au nord afin que les gens feront des pèlerinages et apporteront leurs sacrifices au nord, de cette façon ils Machine Translated by Google. 9. Ne perdra aucun revenu et il ne perdra aucune allégeance de ses gens. Avons-nous déjà vu le truc du veau d'or? Aaron au mont Sinaï. Souviens-toi. Ce sont les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Il fait revivre ça et encore une fois il établit un veau d'or à Bethel. Il en installe un autre chez Dan. Il dit, ce sont les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Alors ils identifient Jéhovah avec ses veaux d'or. Il y aura donc des veaux d'or chez Dan et Bethel. Son épithète est que, Jéroboam est celui qui a appris à Israël à pécher. Ceci une épithète apparaît, tous les rois d'Israël du Nord commettront ce péché qui Jéroboam, fils de Nebat, a appris à Israël à pécher. Jéroboam est donc le premier et parce qu'il a créé les veaux d'or, ils font tout le truc du veau d'or. Je devrais le dire pendant que j'y pense aussi. Dan, celui de Dan au Nord, ils élevèrent un veau d'or à Dan. Savez-vous qui l'ont? Dan a fouillé et deviné ce qu'ils ont trouvé. Non, non, quelqu'un n'a dit avoir trouvé le veau doré. Pourquoi ne trouverais-tu jamais le veau d'or? Parce que si quelqu'un comme un envahisseur arrive et voit un veau d'or, que va-t-il faire? Ils vont arracher le veau d'or, ils vont le faire fondre, ils vont rapporter-le à leur temple. Donc tu ne verras jamais quelque chose qui ressemble à un doré veau. Mais verriez-vous une estrade où ils rendaient leur culte? Ils ont trouvé le haut lieu à Dan. En d'autres termes, où il a installé cette chose. Dans en d'autres termes, ils nivelleraient le terrain là-bas, ils l'ont trouvé. Ils ont donc effectivement trouvé ce haut lieu de Jéroboam. C'est vraiment plutôt cool archéologiquement à Dan, au pied du mont Hermon. Un homme de Dieu issu de Juda affronte Jéroboam. Maintenant, que se passe-t-il? Jéroboam établit les deux veaux d'or, le peuple en le nord adore les veaux d'or. Le roi y parvient. Qui va tenir? Le roi en échec. Le prophète. Donc au chapitre 13 de 1 roi, il y a un homme de Dieu sort de Juda. Vous souvenez-vous de ce type? L'homme de Dieu apparaît. De Juda et que fait-il? Il prophétise contre les autels que Jéroboam avait. Vient de s'installer. Ainsi, par la parole de l'Éternel, un homme de Dieu vint de Juda à Bethel. Machine translated by Google. 10. Alors que Jéroboam se tenait près de l'autel, faisant une offrande, il cria contre l'autel par la parole du Seigneur. Ô autel, autel, voilà ce que dit le Seigneur. Parle. Ainsi, cette phrase, voici ce que dit le Seigneur. Et ce que dit un prophète. 1. Le prophète parle au nom de Dieu, ainsi parle le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur, et le prophète vous donne ce que Dieu dit. Un fils nommé Josia naîtra du maison de David et sur toi il sacrifiera les prêtres des hauts lieux qui maintenant fêtent des offrandes ici. Des ossements humains, ô autel, seront brûlés sur toi. Des ossements humains et le nom du gars qui s'appellera, Josiah. Quand est-ce que Josia vit? 300 ans plus tard. Il y a ici une prophétie concernant Josia 300 ans auparavant. Le gars a vécu en disant exactement ce qu'il ferait, qu'il brûlerait des os humains. Sur cet autel que Jéroboam avait dressé. À propos, 300 ans plus tard, devinez ce qu'il fait. Josiah est né et Josiah fait exactement cela. Donc c'est vraiment une sorte de intéressante prophétie réalisée. Maintenant, ce que vous dites, c'est que dans 1 roi 13, 300 ans avant que l'homme ne vive, prédit son nom et raconte ce qu'il ferait. Et ce un miracle de prédire l'avenir. Et autant, 300 ans, dans le futur. Oui. Question, faire des critiques sauf des miracles. Dans la Bible. Non, vous ne pouvez pas, vous devez donc vous en débarrasser et voici comment les critiques. Débarrassez-vous de la plupart des miracles prophétiques prédisant l'avenir. Voici comment ils obtiennent. S'en débarrasser, ils utilisent cette chose appelée prophétie post-événement. Ce que cela signifie, c'est prophétie après l'événement. Ce que cela signifie alors, c'est que la prophétie, lorsqu'elle dit que Josiah fera cela 300 ans plus tard et que cette prophétie a réellement été faite après l'époque de Josiah est réécrite dans le texte. Voyez-vous ce que je suis en disant? La prophétie arrive donc après l'époque de Josiah. Quand Josiah le fait ceci, puis ils l'ont remis dans le texte une prophétie après l'événement. C'est ainsi que les critiques. Débarrassez-vous de beaucoup de prophéties dans les Écritures. Ils font la prophétie après le événement. Au fait, est-ce que la Bible dit cela? Existe-t-il des preuves manuscrites pour ça? La réponse est non. C'est donc juste leur façon de se débarrasser de ces miraculeux.
Predictions.
Machine translated by Google.
11.
Long terme lié à une prophétie à court terme. Maintenant, une autre chose que fait le prophète, un prophète fait un travail à long terme. Prophétie. Josiah reviendra 300 ans plus tard. Est-ce que l'une de ces personnes va être en vie pour le vérifier et voir s'il dit la vérité ou non? Non. Ils vont tous être morts. Alors, que fait un prophète? Un prophète donne un cours. Prophétie à terme pour confirmer la prophétie à long terme. Donc, dans ce cas, l'homme de Dieu issu de Jude, vous souvenez-vous qu'il était le un gars qui était censé retourner en Jude et il ne l'a pas fait et un lion l'a tué. Donc, ce prophète dit ceci, Josiah va offrir des ossements humains sur cet autel, il dit. Mais cela ne durera pas avant 300 ans. Alors je vais te prouver que c'est vrai. Si ce que je dis est vrai, cet autel va se diviser en deux à l'instant. Arrive. L'autel se divise en deux. En faisant ça, les gens savent quoi? Si l'autel se divise en deux aux paroles de ce type, si c'est vrai, est-ce qu'ils connaissent cet autre 300 ans? La prophétie sera également vraie. Donc une prophétie à court terme couplée à une prophétie à long terme. Terme de prophétie. C'est un peu comme ça qu'ils ont procédé et c'est un cas ici dans 1 roi 13. Donc une prophétie à courte portée confirmant une longue portée. Puis en voici un autre, le fils de Jéroboam est malade alors sa femme entre pour parler au prophète. Le prophète était aveugle, il a dit, mais je savais que tu es sa femme et quand vous entrez dans votre maison, quand vous franchissez le seuil de votre maison, votre fils va mourir. Devinez ce qui s'est passé. Elle rentre chez elle, elle s'en va. Franchit le seuil de sa maison et son fils meurt. Encore une fois, le prophète. En parlant pour obtenir l'accomplissement de la prophétie. Le prophète prophétise et puis plus tard. Plus tard dans le chapitre, c'est accompli ou plus tard 300 ans, c'est accompli. Donc cette connexion, nous. On le voit plusieurs fois ici avec ces prophètes. Les prophètes réprimandant les rois. Les prophètes étaient des contrôles sur le pouvoir du roi et le prophète a dit, ainsi dit-le. Seigneur et roi, tu as mal agi, repens-toi point. Le roi frappait habituellement le prophète. C'est généralement ce qui s'est passé. Roi Achabé et Jézabel d'Israël. Aujourd'hui, Achabé est l'un des grands méchants de l'Ancien Testament en ce qui concerne les rois. Machine translated by Google. 12. Mais son père s'appelait Amri et Amri est en fait plus célèbre en dehors du Bible, alors Achabé l'est. Vous savez, quand nous parlions d'Alexandra la Grande, c'est Philippe de Macédoine vraiment important. Oui, Alexandre est un grand leader mais son le père Philippe l'a piégé. C'est un peu maléfique, c'est ce qui se passe ici. Achabé est un grand méchant mais son père Amri déplace la capitale. Maintenant, si vous l'êtes Israël, la capitale d'Israël était là où se trouve William ici, puis là où se trouve Zach. C'est plutôt là où se trouve la Samarie. Maintenant, pourquoi voudriez-vous déplacer la capitale d'où William est là où est Zach? Où est la route principale? Si vous êtes les gars Méditerranée, y a-t-il une grande route 95 qui arrive juste ici, appelez-la autoroute côtière. Donc, si vous déplacez la capitale ici, vous pouvez désormais contrôler le quoi? L'autoroute principale, la route côtière, qui longe la côte par là. Philistin? Vous pouvez contrôler cela si vous êtes ici. Situé de retour dans les montagnes. Là où se trouve William, vous ne pouvez pas contrôler cette route. Alors, était-ce une décision brillante de la part de Amri pour faire évoluer la capitale en surplombant la plaine côtière? C'est une décision brillante. Alors ils l'ont déplacé en Samarie et maintenant Samarie sera la capitale d'Israël dans le nord. C'était une décision brillante de la part d'Onri. La pierre de Meisha et la pierre de Moabite sont deux pierres anciennes qui les archéologues ont creusées et ils portent le nom, Amri. Il était donc en fait gravé dans la pierre, son nom, Amri, datant d'environ 830 avant J.C. Avoir la confirmation archéologique de certaines de ces informations. D'ailleurs, personne ne conteste cela. Vous ne pouvez pas contester cela, c'est comme gravé dans la pierre, alors. Ils l'ont. C'est intéressant pour ce type Tiglath-Pilser et je m'en fiche si tu connais le sien. Non, appelez-le Tig pour faire court. Quoi qu'il en soit, Tiglath-Pilser, dans ses annales de l'Assyrie, environ 100 ans plus tard, mentionne Israël comme la maison d'Onri. Donc, même 100 ans plus tard, Israël était connu comme la maison d'Onri par l'Assyrie. Amri était un grand gars, Achabé était son fils. Donc Amri est connu internationalement, je suppose. C'est ce que j'essaie de dire. Achabé va jouer un rôle plus important dans la Bible. Aujourd'hui, Achabé, le fils d'Onri, épouse cette merveilleuse femme nommée Jézabel. Machine translated by Google. 13. Même dire son nom Jézabel aujourd'hui, si vous appelez une femme, Jézabel, est-ce que désobligeant. Si jamais j'appelais ma femme Jézabel, ce serait le pire. Là. Il y a d'autres politiciens que j'ai entendu appeler ainsi, mais nous nous en sortirons. Achabé. Épouse Jézabel. Jézabel venait du Liban. Elle venait de Phénicie, elle était du nord d'Israël, du Liban, juste au nord. Par conséquent, juste parce qu'elle venait de l'extérieur. Là, quel genre de Dieu adorait-elle? Elle était une adoratrice de Béol. Liban. C'est de là qu'était originaire Béol, au Liban, dans la région de Phénicie. Alors ce que fait Jézabel? Alors Jézabel amène le culte de Béol en Israël. Culte de Béol. Maintenant Béol, il y a certaines choses que vous devriez probablement savoir sur Béol. Mais je j'ai eu le malheureux privilège de lire Ougaritic et j'ai dû lire tous ces Béol. Mythe. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur Béol, c'est la vérité. Mais il trouvait un endroit à Ougari avec environ 12 000 tablettes juste au nord, en fait juste au nord de chez elle en Syrie, à Ougari, et ils ont trouvé 12 000 comprimés contenant ces contes, ces mythes de Béol. Voici donc le mythe de Béol. Béol était un dieu de la tempête et Béol était considéré comme un cavalier des nuages. Au fait, c'est plutôt intéressant, la Bible. Dans le psaume 68, il est dit, Béol n'est pas le cavalier des nuages. Le psaume 68 dit que Jéhovah est le cavalier des nuages. Donc apparemment, même dans les psaumes, il y en a en arriéré. Entre les deux cultures. Donc Béol est le cavalier des nuages, Béol puis il pleut. Sur la terre mère. Quand Béol pleut sur la terre, il est vraiment fertilisant. Terre mère. Avez-vous les images? Oui, c'est cette imagerie. C'est dégoûtant. Maintenant? Question, lorsque vous êtes allé adorer Béol, que s'est-il passé? Quand tu es entré dans ils adoraient Béol, ils avaient la prêtresse là-bas et vous, en tant qu'homme, y alliez et si elle concevait et avait un enfant, cela signifiait, si elle était fertile, cela signifiait votre la terre serait fertile. Voyez-vous quelle partie de leur culte représentait? Une partie de leur. L'adoration consistait à aller dans ces prostituées du temple et à les mettre enceintes parce que cela signifiait que votre terre serait fertile. Si elle était fertile, votre terre le serait. Au fait, est-ce vraiment corrompu? C'est vraiment une corruption majeure. C'était Machine Translated by Google. 14. Une partie de leur culte et Dieu détestait cela. C'était vraiment méchant, et Jézabel est promouvoir ce genre de culte et nous en savons beaucoup maintenant. Être honnêtement avec vous, nous en savons trop. Élie et Achabé. Maintenant, le roi Achabé est un homme vraiment méchant, il va être le plus méchant. Roi du Nord. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il un prophète qui aura se dresser contre lui? C'est un méchant roi, qui est le prophète. Le nom du gars est Élie. C'est là qu'Élie s'oppose à Achabé et c'est pourquoi le discours d'Élie est si célèbre. Parce qu'il est le roi le plus méchant. Élie annonce le jugement de Dieu sur Achabé. C'est intéressant, les prophètes, les bons prophètes sont blâmés, tués et tabassés. Le faux prophète, Israël aimait-il les faux prophètes? Quel était le message du vrai prophète? Le message majeur était quoi? Se repentir. Quel était le message du de faux prophète? Paix, shalom, paix. Le message du faux prophète était en grande partie une question de paix. Tout le monde aimait les faux prophètes parce qu'il était toujours proclamant la paix quand il n'y avait pas de paix. Le vrai prophète dit « Repentez-vous », et il les détestait. C'est donc très intéressant. Au fait, avons-nous vrai et faux prophètes aujourd'hui? C'est intéressant. Élie et les prophètes de Béol sur le mont Carmel, un roi 18. Il n'y a donc aucun désir de sa part de se repentir ou de faire face au jugement et c'est pourquoi il appelle Élie et nous en sommes à un roi chapitre 18, Achabé appelle Élie le perturbateur de Israël. Qui est le véritable perturbateur d'Israël? Achabé est le perturbateur d'Israël, mais remarquez. Comment projetait-il son mal sur une autre personne? Achabé est celui qui dérange Israël mais pourtant il le projette et appelle Élie celui qui trouble Israël. Maintenant, ce qui se produit. Un roi 18, il y a une histoire vraiment intéressante ici, nous avons Élie et les prophètes de Béol. Ils vont s'en sortir. Il y en aura 450 faux prophètes. Combien de bons prophètes avez-vous? 450 contre 1, toi. Allez toujours avec la majorité, n'est-ce pas? Vous devriez voter 450 contre 1, Élie. Contre les prophètes de Béol, que va-t-il se passer ici? En voici une carte. D'où vient l'humidité en Israël? C'est toujours Machine Translated by Google. 15. Vient du même endroit. Il vient de la mer Méditerranée. L'humidité souffle au large de la mer Méditerranée et où pleut-il? Quand il atteint le montagne, l'eau monte et quand elle touche les montagnes, il pleut ici. Parce que l'eau, les nuages montent et quand les nuages montent, les choses se refroidissent et il pleut. Il vient donc de la Méditerranée, frappe les montagnes et pleut sur le face avant de cette montagne. Mais où est le mont Carmel, où va Élijah être? Vous voyez cette montagne ici. Ceci s'appelle le mont Carmel, voyez-vous le nez de l'antilope ici. C'est une ville portuaire appelée Haïfa aujourd'hui, mais ici c'est le mont Carmel. Quand les eaux sortent de l'océan, quelle est la première montagne qui frappait? Carmel. Le Carmel sera-t-il verdoyant et vert parce qu'il pleut? Oui, c'est vrai, au bord de l'océan, donc c'est là que vient la pluie, c'est là qu'il pleut le plus fort. Il y va s'affronter ici même avec les prophètes de Béol. Si jamais vous arrivez en Israël, assurez-vous d'y aller et de le voir. Ils ont une statue de Elijah, c'est vraiment cool. Quoi qu'il en soit, c'est ici. Maintenant, Elijah dit, allons Y. Les prophètes de Baal montent. Le mont Carmel, c'est un endroit où frappent habituellement les tempêtes. Il y appelle le peuple à un. Décision au chapitre 18, verset 21. Il y a là une belle déclaration, Élie. Devant le peuple et il dit, jusqu'à quand oscillerez-vous entre deux opinions? Si là, le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Alors il dit de ne pas hésiter entre deux opinions, si Jéhovah est Dieu, suivez-le, si Baal est Dieu, suivez-le. Alors Élie leur dit, je suis le seul prophète parmi les prophètes du Seigneur qui reste et Baal a 450 prophètes. Alors ils montent là-haut, maintenant le problème, Élijah dit que nous allons avoir le lait, Dieu lance un éclair sur ses autels. Au fait, Baal s'est-il spécialisé dans un éclair qui lance? Baal était un dieu foudroyant. C'était lui qui a apporté les pluies, et c'est lui qui a apporté les orages. Baal s'est donc spécialisé dans les pluies. Alors Élijah dit, je vais combattre Baal sur qui? Gazon. Nous allons combattre Baal sur le territoire de Baal. Eh bien, Jéhovah a un problème. Le problème de Jéhovah, c'est que Jéhovah, que est ce que? Machine translated by Google. 16. Et il spécialisait. Baal se spécialise dans le lancement d'éclairs et la pluie qui arrive vers le bas. Jéhovah ne se spécialise dans rien, n'est-ce pas? Alors Baal a ça. Spécialisation, Jéhovah fait en quelque sorte tout. Alors ils sortent. Maintenant, ils élèvent cet autel et commencent à crier vers leur Dieu. Je vais poser cette question, le sarcasme est-il toujours approprié? Maintenant, si tu as suivi ce cours, je demandez-vous, le sarcasme est-il toujours approprié? Oui. Je l'utilise régulièrement en classe et où les je fais. Je l'obtiens. Eh bien, le voici dans la Bible, voici Élie parlant au prophète de Baal à midi. Il s'agit du chapitre 18, verset 27, à midi, Élie commença à l'énarguer. Criez plus fort. Il a dit. C'est sûrement un dieu. C'est sûrement un dieu, croyait Élie. Que? Non, est-ce qu'il se moque d'eux? Il se moque d'eux. C'est sûrement un dieu. Crie plus fort, peut-être qu'il ne t'entend pas, peut-être qu'il est en pleine réflexion, ou occupé, ou en voyage, ou peut-être qu'il est sur le pot. Peut-être qu'il dort et qu'il faut le réveiller. Alors crie plus fort pour qu'il t'entende, au cas où il dort, tu dois réveiller ton Dieu. Alors il criait plus fort et se frappait avec des épées et des lances, comme la coutume était jusqu'à ce que le sang coule. Pourquoi se sont-ils coupés? C'est. Je croyais que si vous vous coupiez, cela attirerait l'attention de Dieu. Type 2. Cette idée de verser du sang, si tu fais couler le sang, peut-être que l'eau coulait du ciel ou quelque chose comme ça. Alors ils se sont coupés. Il y a. Rien ne se passe. Que fait Élie? Il y dit, il y a ici un vieil autel pour le Seigneur. Plaçons Y 12 rochers pour les 12 tribus d'Israël. Fixons les 12. Les pierres et mettons un peu d'eau dessus. Si Jéhovah veut tirer sur certains des éclairs dessus, pourquoi ne pas l'arroser d'eau juste pour être sûr que le bois ça brûle vraiment? Ils ont mis de l'eau dessus et puis tout d'un coup, on se souvient de ça, une petite main arrive, une petite main de nuage, et tout d'un coup quoi? Dieu fait ça? Une sorte de truc de drone avec des éclairs guidés par laser qui tire directement sur l'autel. Et le frappe directement. La chose fume et les gens sont terrifiés et commencent en hurlant. Puis Élie s'en prend aux 450 prophètes et ils sont tués. Mais c'est plutôt intéressant aussi. Les gens ont peur quand. Machine translated by Google. 17. La foudre frappe. Avez-vous déjà été proche d'un éclair? Est-ce que ça vous fait peur? Maintenant, vous pouvez vous entraîner autant que possible. Je ne vais pas avoir peur. Mais quand ça se rapproche et c'est proche, je n'ai pas été. Vraiment, très proche, mais j'ai été assez proche et je vais vous dire que ça fait peur à la lumière du jour. De toi parce que tu es totalement hors de contrôle quand la chose frappe. Au fait, j'ai... Certaines personnes ont été touchées par la foudre et ont survécu. Oui, c'est vraiment gentil. Intéressant quand on voit le pouvoir des choses et je me suis toujours demandé ce que c'était. Ce serait comme être frappé par un éclair et survivre. Mais je n'ai jamais vraiment voulu. Pour mettre en place le test car je ne ferai pas confiance à mes baskets. Ça brûlerait probablement. Les éteindre ou quelque chose comme ça. Mais je pensais juste que ce serait vraiment intéressant. Celui qui remporte la victoire, un contre 450 prophètes de Baal, il y remporte la victoire. C'est le plus beau jour de sa vie. Il bat les prophètes de Baal, au nombre de 450. Il affronte Jézabel, Achabé et les 450 et il gagne. C'est le plus beau jour de sa vie. La vie, c'est lui le héros, c'est lui qui gagne. Élie fuit Jézabel. Quel est le problème? Jézabel dans le chapitre suivant et c'est en quelque sorte incroyable en fait. Achabé raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué tous les prophètes avec l'épée. Alors Jézabel envoya un messager pour Élie de dire que les dieux me traitent très sévèrement si à ce moment-là. Demain, je ne ferai pas de ta vie une vie comme celle de Élijah eut peur et courut vers sa vie. Où a-t-il couru? Il est là, tu as vu où était le mont Carmel, il n'a pas couru. Seulement à travers la terre d'Israël, il a traversé Juda et la prochaine chose que nous savons, c'est qu'il est à Beersheba. Où est Beersheba? Beersheba est au fond de
Juda. Beersheba, c'est comme Key West. C'est en bas, au sud.
Alors il court à Beersheba et il arrive là-bas et il a eu peur. Puis il est arrivé sous un genêt, il s'est assis et a prié. Il a dit, j'ai eu assez, Seigneur, dit-il, prends-moi la vie. J'en ai assez, prends ma vie. Au fait, avons-nous déjà vu un autre prophète demander quelque chose de similaire? Je pense que l'expérience était comme celle de Moïse. Il dit, Seigneur, prends ma vie. Est-il possible pour un machine translated by Google? 18. Personne chrétienne ou l'un des plus grands prophètes de tous les temps, Élie, pour qui prier? La mort. Et il dit, prends-moi la vie. L'ange vient et lui donne à manger. Puis l'ange vient et donne lui un peu plus de nourriture. Élijah mange la nourriture et la prochaine chose qu'il y fait est de courir. De Beersheba, qui est tout au sud de Juda, il court jusqu'à Mont Sinaï. Au fait, qui est au Mont Sinaï? Dieu est là-bas et, la parole du Seigneur est venue vers lui, que fais-tu ici Élie? C'est Dieu qui dit, eh bien, je suis au Mont Sinaï, que fais-tu ici? C'est des centaines de kilomètres sud. Je ne suis pas sûr du kilométrage exact. Je pense que ce n'est qu'environ 75 000. Mais 75 miles, c'est un long chemin à parcourir à pied. Il a répondu, j'ai été très zélé pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les Israélites ont rejeté votre alliance, démoli vos autels et mis votre prophète à mort, et je suis le seul qui reste et maintenant ils essaient de me tuer. Aussi. Donc, Élijah est fondamentalement à plat. Élijah est-il vraiment déprimé? Ce que je vous suggère, c'est qu'ici, Élijah a remporté l'une des plus grandes victoires de sa vie. Vaincre les 450 prophètes de Baal. Quelques jours plus tard, il s'enfuit jusqu'en bas. Et il est totalement déprimé à cause de cette femme, il est mort de peur à l'idée de va perdre la vie. Est-ce que les hauts et les bas se rejoignent parfois? La personne se défonce un jour et tout est génial et merveilleux et le lendemain, ils sont à la décharge. Avez-vous déjà vu un pasteur lundi? Avez-vous déjà vu un pasteur prêcher son Le dimanche il est à fond, le lundi il est déprimé. Au fait, faites beaucoup de... Les pasteurs prennent congé le lundi. Savez-vous pourquoi ils font ça? Une montée d'adrénaline sur... Dimanche, lundi est le jour du crash. Je veux appeler cela, la solitude existentielle. Il y dit, je suis le seul. Je suis parti et maintenant il cherche à me suicider. L'un des pires sentiments de la vie que... J'ai déjà eu l'impression que tu étais absolument seul. Mon fils vient de rentrer d'Afghanistan. Il a été dans les marines pendant 4 ans et il a effectué un déploiement en Irak, ce qui n'était pas trop mal. Lorsqu'il est arrivé en Afghanistan, l'Afghanistan était Machine Translated by Google.
19. Brutal. Il revient ici, put il comprendre les enfants avec les schools il est allé au lycée avec. Maintenant il a 2223 ans, il retourne chez ses copains de lycée, est ce qu'il put.
Sortir avec ses copains de lycée maintenant. Sont-ils très différents de lui? Oui, il sort dans un endroit et une de ses filles qui était dans sa classe de lycée. Arrivé dit, combien de personnes avez-vous tué? Il dit, est-ce qu'elle a un indice? Elle n'en a aucune idée, absolument aucune idée. Il est totalement tu ne sais même pas quoi cette question signifie la poser. Peut-il parler à ses pairs? Et la réponse est non. Il a eu beaucoup de mal à parler à ses pairs. Alors tout d'un coup, il commence. Ressentir quoi? Totalement et absolument seul. Vous ne pouvez parler à personne? Personne? Comprend ce qui se passe. Donc tout ce que je dis c'est d'être prudent, ça peut devenir réel. Les temps d'arrêt. Étant totalement absolument seul, je vais te dire que c'est vraiment, vraiment déprimant. Elijah a vécu cela et c'est ce qu'il a fait. La triple mission finale d'Eli. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est que Dieu vient et dit, d'accord, Eli, tu dois terminer 3 choses. Il y a 3 choses que tu dois encore faire pour toi, Elijah. Tu n'es pas le seul, il y a 7000 de mes prophètes qui n'ont pas courbé leur genou à Béol. Vous devez remonter votre queue là-haut et aider ces gars-là. Alors il lui dit que tu dois faire 3 choses, tu dois oindre Azaël. Qui sera le roi de Syrie? Oindre le roi de Syrie. Deuxièmement, vous devez oindre Jéhu. Maintenant, qui est Jéhu? Jéhu va être roi. Il va prendre vers le bas Achabé et ses descendants. Jéhu sera le roi qui éliminera Achabé descendance. Et enfin, vous devez oindre le prochain prophète. Le suivant. Le prophète sera Élisée. Alors il y va oindre Élisée. C'est presque comme le bâton prophétique qui va être transmis d'un prophète à l'autre. Avons-nous vu ça avant? Moïse passe le relais à qui? Josué. Ce que tu as ici. C'est Élie qui le transmet à Élisée. Élisha est une doublure et Élijah le transmet. Donc Dieu dit que vous devez monter et oindre ces gars et donc Élie a dû reculer.
Eli Venable de Naboth.
Machine translated by Google. 20. Maintenant, le vignoble de Naboth, et je veux aborder cela rapidement. C'est dans un roi. Chapitre 21. C'est une histoire puissante. Achabé sort et regarde son palais Zé, qui a un beau vignoble juste à côté de son palais. Un type nommé Naboth. Achabé s'approche de ce type, Naboth, et il lui dit, eh, Naboth, je veux ta vigne. Je te paierai bien ta vigne. Vendez-le simplement au roi. Je veux ta vigne. Vendez-le au roi. Naboth dit quoi? Je ne peux pas te le vendre, c'est un héritage de mes parents de notre famille. Je ne peux donc pas vous le vendre. Que va faire le roi? Eh bien, dans ce cas, le roi ne l'a pas tué. Il dit ici, Achabé rentra chez lui maussade et en colère parce que Naboth le Jézreélite avait a dit, je ne vous le vendrai pas, il s'est allongé sur son lit en boudant et a refusé de manger son Ma femme Jézabel est entrée et a dit, « Pourquoi es-tu maussade, pourquoi ne veux-tu pas manger ?» Jézabel vient et dit, « Comment se fait-il que tu sois si déprimée ?» Achabé, tu es le roi, comment vas-tu ? Dans ton lit, maussade. Elle dit, « Ne t'inquiète pas pour ça Achabé, je m'occuperai d'eux. Il que veux-tu pour Noël Achabé ? Vous voulez son vignoble ? Je vais le donner à toi. Je vais l'obtenir pour toi. Je m'en occupe, dit Jézabel. Maintenant, quand Jézabel dit ça, ça va être une mauvaise nouvelle. Jézabel dit cela et je veux introduire un concept que j'appelle religieux. Mal. Jézabel aurait elle pu simplement ordonner à ses hommes de sortir et de le tuer. Elle pourrait vient d'ordonner à ses hommes de sortir et de le tuer. C'est ce qu'elle fait. Non, elle n'a pas. Voici comment Jézabel tue ce type Naboth. Elle dit, proclame un jour de jeûne et place Naboth à une place bien en vue. C'est donc un jour de jeûne, c'est un cérémonie religieuse. Naboth occupe une place importante parmi le peuple. Mais placez deux scélérats en face de lui, remarquez deux scélérats. Il lui en faudrait deux témoins pour condamner une personne. Et faites-leur témoigner qu'il a maudit Dieu et le roi. Et puis faites-le sortir et lapidez-le à mort. Naboth fut tué. Athéil était tué en vertu de la loi du blasphème. Elle a utilisé le loi du blasphème pour le tuer. C'était la loi de Jéhovah, elle utilise la loi de Jéhovah pour tuer ce type. Et ce méchant. Et ce doublement méchant. C'est un peu comme tricher dans un cours biblique, tu vois ce que je dis. Je veux dire, tu vas tricher en classe, toi. Machine translated by Google. 21. Tricher dans un cours biblique, est-ce vraiment mauvais ? Ce que je dis, elle utilise la religion pour détruire Naboth. Elle utilise la religion et plutôt que de simplement tuer le gars, c'est donc ce que je veux appeler le mal religieux. Les gens se cachent-ils derrière la religion pour faire le mal ? Oui, ils le font. Souvent, ils le recouvrent de toutes ces choses religieuses. C'est incroyable Jézabel. Et ce que Dieu vient, d'ailleurs, il y a un Dieu. Il voit ce qui se passe et alors devine. Qui se présente ? Qui est le prophète ? Il y arrive, il s'en prend à Achabé et il dit, Achabé, tu es un homme mort. Chiens, les chiens vont-ils lécher votre sang ? Les chiens. Tu vas lécher ton sang, Achabé. Et puis il vient à Jézabel, il dit, Jézabel, tu as organisé ça, les chiens vont te manger. Tu vas être mangé par les chiens, c'est fini. Achabé est la grâce de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il ? Écoutez ce que dit la Bible, il n'y a jamais eu, c'est chapitre 21 verset 25, il n'y a jamais eu d'homme comme Achabé qui se soit vendu pour faire mal aux yeux du Seigneur, poussé par sa femme Jézabel. Achabé est il le pire des le pire. Mais que se passe-t-il ici ? Verset suivant, quand Achabé entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, revêtit un sac et jeûna. Il s'est couché dans un sac et est allé autour docilement. Que fait ce type ? Oui, Achabé se repente. Je veux dire, c'est le type le plus méchant qui ait vécu dans le royaume du Nord, ce type se repente. Regarde ça. Lorsque la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite, il dit, as-tu remarqué ? Comment Achabé s'est-il humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié, je n'apporterai pas de désastre à son époque. Mais je l'apporterai au jour de son fils. Achabé épargné. Achabé est épargné, il se repente. Ce mec est le pire, le plus méchant. Personne dans l'Ancien Testament. Ce type se repente et Dieu l'épargne. Cela me ramène, certains disent qu'il n'y a pas beaucoup de grâce dans l'Ancien Testament. Question, est-ce la grâce ? C'est la grâce, ce type vient de massacrer Naboth. Et avait fait toutes ces mauvaises choses et pourtant Dieu l'épargne. L'Ancien Testament est il. Plein de grâce aussi. La réponse est oui. Dieu est miséricordieux dans les deux testaments, c'est le même Dieu et Dieu épargne Achabé ici. Machine translated by Google. 22. Mon autre point est le suivant, est-il possible que dans votre vie, vous fassiez quelque chose? C'est tellement mauvais que tu diras, Dieu ne peut pas me pardonner ça. Question, si une personne se repente, Dieu pardonne-t-il? Même si c'est un achabé, c'est absolument incroyable. Donc, achabé est comme le pire des pires, il se repente, Dieu dit, je ne provoquerai pas de désastre. Ta journée. Date à connaître. Maintenant, voici quelques dates à connaître. Ce ne sont que quelques choses rapides et ensuite. Je veux frapper autre chose. David est un 1000 avant JC, c'est facile. En voici un nouveau. Le royaume du Nord est déporté en Assyrie, quelle est la capitale de l'Assyrie? Ninive, c'est le territoire de Jonas, c'est 722 avant JC. J'ai oublié de vous parler des Samaritains. Savez-vous qui? Les Samaritains le sont. Vous vous souvenez de Jésus et de la femme de Samarie. Le Nord. Royaume, quand l'Assyrie enleva ses 10 tribus, ils laissèrent les pauvres gens dans le atterrir. Les Assyriens ont ensuite amené d'autres peuples et les ont fait se marier avec ces pauvres juifs. Les Samaritains sont donc des métis fondés par les Assyriens qui occupaient la majeure partie de la classe moyenne et plus, ils n'avaient pas vraiment de classe moyenne, mais ils ont enlevé les riches et les intelligents et n'ont laissé que les pauvres. Alors, ils ont amené d'autres groupes qui se sont mariés avec les juifs et ces gens sont devenus les Samaritains. C'est pourquoi les Samaritains sont si méprisés dans le Nouveau Testament, ce sont des métis. Ce sont les juifs de la classe inférieure qui se sont mariés entre eux avec ces gens. Jésus se heurtera donc à ce préjugé à son époque. Maintenant, Jude a été déporté à Babylone en 586 avant JC, que se passera-t-il d'autre en 586 avant JC? Quel est l'événement le plus important? Le temple est détruit 586 avant JC. Jude est exilé à Babylone en 586 et le temple est détruit. Alors voici le dernier rendez-vous. Ce sont les quatre grandes dates que je veux que vous sachiez pour ce semestre. La fin de l'Ancien Testament, comme nous sommes dans Néhémie, et j'appelle ce type Malachi. Le dernier des prophètes italiens. Mais c'est le dernier prophète. Continue à penser à Malachi. Maintenant, Malachi se termine en 400 avant JC. Ainsi, après 400 avant JC, la prophétie est terminée après 400 avant JC. La prophétie se termine avec Malachi et jusqu'à l'époque de Jésus, vous avez quoi? Environ 400. Machine translated by Google. 23. Années, on appelle les années silencieuses où sont écrits les apocryphes. Donc de Malachi 400 avant JC jusqu'à l'époque du Christ, c'est essentiellement à ce moment-là que les apocryphes sont écrits. Jésus arrive autour de zéro. C'est faux, mais de toute façon, nous en parlerons dans le Nouveau Testament. Babylone était la capitale de l'Empire néo-bébylonien. Il y avait le vieux Empire bébylonien, vous connaissez Hammurabi, vers 1750 avant JC. Hammurabi est le vieux roi bébylonien, ils sont descendus dans les tubes. L'Assyrie est apparue, l'Assyrie était là. Grand et en 612 avant JC, Babylone détruisit Ninive. Ensuite, Babylone a joué un rôle. Nabuchodonosor et tous ses gars, puis Babylone est devenue importante pour les Néo. Empire bébylonien, 612-539 avant JC. Alors qui a succédé aux bébyloniens? Vous souvenez-vous que Cyrus, le Persan. Vous vous souvenez des Perses? Les Perses sont entrés et ont essuyé Babylone, c'était environ 539 avant JC. 70 ans après que les Juifs furent exilés, les Perses entrent. Qui vient après les Perses? Oui, les Grecs, les 300, les Grecs sous Alexandre anéantissent les Perses. Après les Perses puis les Grecs c'est quoi? Et qui en veut aux Grecs? Personne. Les Romains ont volé tout. Des trucs des Grecs. Désolé, j'ai une mauvaise vision des Romains. Prophétie messianique. Maintenant, permettez-moi de passer à quelques prophéties ici. Je veux passer par quelques prophéties messianiques. L'Ancien Testament pointe vers le Christ et je viens de. Je veux consacrer ce dernier moment à réfléchir à certaines de ces prophéties. Que est-ce que la première attente du Christ dans la Bible? Le proto-évangélique. Celui qui viendra de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Droite. Depuis le début, après qu'Adam et Ève soient tombés dans le péché, on s'attend à ce que de la postérité de la femme naîtrait celui qui écraserait la tête du serpent. Proto-évangélique. L'alliance avec Abraham était quoi? La terre, la graine, une bénédiction qui les descendants d'Abraham seraient une bénédiction pour le monde entier. C'est nous. Jésus viendrait et l'évangile se répandrait dans le monde entier et nous, comme Machine Translated by Google. 24. Les gentils seraient greffés sur la souche d'Israël, sur l'olivier d'Israël. Donc, les bénédictions d'Abraham pour le monde entier attendaient à nouveau Christ. La chose se rétrécit encore plus avec David, maintenant avec David on dit que le Messie serait le quoi? Le fils de David. Dieu construirait à David une maison dynastie, et que son descendant s'assiérait sur le trône de son père David et régnerait. Regardant pour toujours et à jamais Jésus comme le Ben David. Ben David signifie quoi? Ben signifie, fils, de David, Ben David. Maintenant, il va y en avoir un autre. Passons en revue cela. Malachie à la fin de la Bible, à la toute fin ici, il est mentionné. Laissez-moi. Je viens de vous lire ceci. C'est intéressant, les derniers versets de l'Ancien Testament terminent ça. Manière, voyez, dit le chapitre 4, verset 5 de Malachie, voyez, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Quand Jésus montre, ont-ils demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie? Ils lui ont demandé s'il était Élijah qui est à venir. L'Ancien Testament leur disait qu'Élie viendrait devant le grand et terrible jour du Seigneur. C'est ainsi que se terminait l'Ancien Testament. Maintenant laisse-moi. Il suffit d'en parcourir d'autres. Question de l'élève, oui et non, Jésus a dit, Jean-Baptiste est Élie si vous. Je l'entendrai, mais il y était sur le mont de la Transfiguration Matthieu 17.2, mais je pense que cela fait davantage référence à Jean-Baptiste. Ça devient compliqué et on en parlera cela dans le Nouveau Testament. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe 9.6. Ça ressemble à ça. Et son nom devrait être appelé, oui, laissez-moi simplement lire ceci, car un enfant nous est donné est né, un fils nous est donné et le gouvernement devrait être sur son épaule. Et il devrait s'appeler merveilleux, conseiller, le puissant Dieu, le Père éternel, le Prince de la paix. Ok, c'est vraiment mauvais quand je dois traverser ça comme ça. Comment savez-vous cela? Parce que vous savez. Le Messie de Hendel. Le Messie de Hendel, je jure que la moitié vient d'Isaïe. Sérieusement, le Messie de Hendel est incroyable. Un enfant naîtra et il s'appellera merveilleux, il s'appellera Mictigod, donc ce n'est pas juste un habitué. Machine Translated by Google. 25. Enfant, il sera appelé Dieu puissant. Que diriez-vous de celui-ci? Retournez une page en arrière dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il Il dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge sera avec enfant et tu donneras naissance à un fils et tu l'appelleras, comment ? Emmanuel. Que veut dire Emmanuel ? Dieu avec nous. Un enfant, qui est la vierge qui va concevoir et donner naissance à un fils. Marie, citée dans le Nouveau Testament. Michée 5, 2, je ne chercherai pas celui-ci, c'est que Jésus naîtra en Bethléem de Judée. Qui est né à Bethléem avant Jésus ? David. Zacharie 9 dit que le roi viendra vers vous monter sur un âne. Quand ? Est-ce que Jésus fait ça ? Il monte un âne dans la ville de Jérusalem, que font tous les ? Les gens disent. Hosanna, Hosanna, le fils de David, Hosanna au fils de David. L'entrée triomphale, Jésus accomplit Zacharie chapitre 9. En voici une que vous connaissez tous, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné ? Moi. Qui a dit ça ? David. David connaissant le cœur de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il écrit un psaume. Jésus, lorsqu'il est sur la croix, cite David, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? David verra peut-être Jésus dans le futur. Et ce genre de choses. Maintenant, il y a un passage sur lequel je veux terminer et c'est Ésaïe 53 et... C'est beau. Quand j'étais jeune, mon père me faisait mémoriser cela. Qui a cru à notre rapport et à qui le bras du Seigneur est il révélé. Il a grandi devant lui comme une pousse tendre, comme une racine sortie d'un sol sec. Il n'avait pas beauté ou majesté pour nous attirer vers lui, rien dans son apparence ne devrait nous attirer. Le désirer. Il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec le chagrin. Les Juifs cherchaient le Messie Ben David qui viendrait secouer le joug romain, qui s'assiérait sur le trône de David. Quand Jésus est venu, est-il venu comme le Messie qui se débarrasserait et règle ? Il n'est pas venu comme ça et les Juifs ont remarqué ce passage et d'autres et ils ont dit, la Bible nous parle d'un autre Messie et ils ont appelé ce Messie. Le Messie Ben Joseph, le Messie Ben David contre le Messie Ben Joseph. Machine translated by Google. 26. Le Messie Ben Joseph est le quoi ? Que est-il arrivé à Joseph ? Il a été mis dedans. Prison. Le Messie Ben Joseph est un Messie souffrant et les Juifs ont donc eu cette idée de ce Messie Ben Joseph et ce Messie Ben David. Ici, il est décrit, il a été méprisé et rejeté. Il a sûrement pris en charge nos infirmités et a porté nos chagrins et pourtant nous le considérions frappé par Dieu et frappé. Il a été transpercé. Fer. Tu as remarqué que l'objet percé fait référence à la croix. Il a été transpercé pour notre transgressions, il a été écrasé pour nos iniquités. La punition qui nous a amenés. La paix était sur lui et par ses blessures nous sommes guéris. Tout ce que nous avons, comme les moutons égarés, cela vous semble familier. Chacun a sa manière et le Seigneur lui a confié l'iniquité de nous tous. Il était opprimé et affligé. Maintenant, vérifiez ceci au verset 9, on lui assigna une tombe avec le méchant, pluriel, avec les méchants, pluriel, y en avait-il plus d'un dans sa mort ? Qui était méchant des deux côtés de lui ? Le pluriel méchant et les riches. Singulier, dans sa mort. Et ce exactement ce qui est arrivé à Jésus. Les méchants. Pluriel des deux côtés et dans sa mort le riche, qui était le riche dans sa mort. Joseph d'Arimathie, vous souvenez-vous qu'il a donné son tombeau à Jésus ? C'était un homme riche qui a pourvu à Jésus. Il y a donc un jeu sur les riches, singulier, et avec le méchant, pluriel, là c'est absolument incroyable. Alors ce passage d'Isaïe 53 est absolument magnifique et nous dit quoi ? Il a porté nos iniquités. Nous appelons cela l'expiation de substitution, que Jésus s'est substitué à nous. Il a porté nos péchés et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ceci est ma dernière diapositive. Écoutez cette chanson, Joy to the World. J'allais pour le chanter, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Joie du monde, le Seigneur est venu, que la terre recevait son roi. Tout l'Ancien Testament remontant à ceci, la terre recevant son roi. Que chaque cœur lui prépare une place, et ensuite, que le ciel est. La nature chante, que le ciel et la nature chante et que le ciel et la nature chante. C'est là qu'il faut terminer ce cours, c'est là que nous allons le terminer. Joie. Au monde, le Seigneur est venu. Machine translated by Google. 27. Transcrit par Elan Notarobrut, édité par Ted Rildebrandt.